La nébuleuse mystique ésotérique, c'est un phénomène qui s'est répandu en Occident depuis les années 1970, mais qui n'est pas sans antécédent historique. Ça se caractérise comment ? Ça se caractérise par opposition aux églises ou aux sectes qu'on connaît depuis plus longtemps. Ça se caractérise par l'absence de structure organisationnelle hiérarchique solide, par l'absence d'un corpus dogmatique indivisible auquel les croyants sont censés adhérer. Il n'y a pas un dogme auquel on adhère totalement. Vous voyez, dans l'Église catholique, on a un dogme qui est résumé dans le catéchisme et auquel il faut adhérer. Là, non. Là, il y a des croyances, mais on n'est pas obligé d'adhérer à tout. J'y reviendrai un peu plus tard. On n'est pas forcément obligé d'appartenir à une organisation exclusive. On peut adhérer à des organismes, mais on peut être adhérent de plusieurs groupes différents sans que ça pose apparemment problème. L'expression nébuleuse mystique ésotérique, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais je pense qu'elle correspond bien à la réalité. Vous savez ce que c'est qu'une nébuleuse en astronomie? C'est un ensemble d'astres qui sont solidaires les uns des autres. Là, donc, en ce qui concerne la nébuleuse dont il est question aujourd'hui, il s'agit donc d'une multitude de groupes, de groupements, d'associations, plus ou moins formelles, plus ou moins informelles, de personnes qui sont indépendantes les unes des autres, mais qui sont en relation. Il existe des filiations, des réseaux. Ça, c'est l'aspect nébuleuse. Mystique, pourquoi ? Mystique parce que la mentalité des personnes qui adhèrent à ça veulent une relation personnelle de l'individu avec le monde spirituel, et finalement l'individu n'est considéré finalement que comme un élément du monde spirituel. Ésotérique, ça se rapporte à l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est un système de pensée selon lequel la connaissance doit rester secrète et ne peut être accessible que par une initiation sous la conduite de maître. Voilà en gros l'explication de l'expression. Je vous annonce en quelques mots les différentes parties de mon exposé. Je vais commencer par essayer de montrer que cette nébuleuse et la résurgence d'une mentalité païenne en Occident. Je dirai quelques mots des adeptes en distinguant les maîtres des simples croyants. Je dirai un mot de l'initiation, des cadres institutionnels, parce qu'il y en a quand même. Et je terminerai en montrant qu'il s'agit finalement d'une forme de sectarisme. Même si ça apparaît moins fréquent dans les médias, contrairement aux sectes vraiment constituées dont Didier Pachou vous a donné quelques exemples tout à l'heure avec son montage vidéo. Mentalité païenne. Je ne dis pas paganisme, je dis mentalité païenne, je tiens au mot mentalité. En gros, la nébuleuse se caractérise d'abord par un rejet du christianisme. Rejet du christianisme, il est quand même question dans la littérature de la nébuleuse du Christ, mais ce Christ ce n'est pas le Jésus tel que celui auquel croient les chrétiens. C'est un maître ascensionné, dit-on, je vous dirai tout à l'heure ce que c'est, parmi d'autres, un initiateur essentiellement. Rejet du christianisme parce qu'on rejette la structure des églises, la hiérarchie sacerdotale, on rejette l'obligation de croire à un dogme dans sa globalité, et donc on préfère se référer aux vieilles religions païennes. Alors on voit beaucoup de références dans leur littérature sur c'est quoi le dieu de la pluie, là c'est Zeus, le dieu de l'orage, hein. J'espère qu'il ne va pas me foudroyer. On se réfère pêle-mêle, selon les textes, à la mythologie grecque, à la mythologie romaine, aux mythologies germaniques, nordiques, baltes, aux croyances des Amérindiens, des Indiens d'Amérique, les fameux Mayas, dont on a tiré un calendrier annonçant la fin du monde pour le 21 décembre 2012, vous vous rappelez? C'est une recomposition des vieilles religions, ça n'est pas du tout les vieilles religions d'autrefois. Je prends un exemple simple. Il existe plusieurs organismes dirigés par le même personnage qui s'appelle Olivier Manitara, qui se présente comme un Essénien. Il appelle son mouvement les Esséniens. Pour ceux qui connaissent un peu les religions de l'Antiquité, les Esséniens, c'était une secte juive d'un peu avant et d'un peu après Jésus, qui sont, sinon les auteurs, au moins les compilateurs des manuscrits de la Mer Morte. J'ai étudié les manuscrits de la Mer Morte, j'ai étudié les textes de Manitara. Je peux vous dire que les Esséniens du XXIe siècle n'ont absolument rien à voir avec les enseignants du monastère de Qumran au bord de la Mer Morte. Alors, à propos des croyances, on a parlé d'un supermarché des religieux, du religieux. On se choisit les croyances qu'on veut, un peu à la carte. Comme les païens de l'Antiquité autrefois, les païens de l'Antiquité croyaient finalement à tout, privilégiaient plutôt un dieu qu'un autre, une déesse qu'une autre, mais finalement admettaient tout à fait la croyance aux autres divinités qu'ils négligeaient un peu. On assistait à un culte, on assistait à un autre. Là, c'est pareil. On prend les croyances qu'on veut. On a parlé d'un nomadisme du religieux. On va se faire initier chez un maître. On va se faire initier chez un autre maître. On se fait initier dans différents groupes. On lit un peu toutes sortes de littérature. On en prend ce qu'on veut. On se bricole soi-même son propre système de croyances. Et si on a du charisme, ben un jour on s'autoproclame maître soi-même et on présente un nouveau système dans lequel d'autres personnes viennent comprendre ce qui les intéresse. Alors ça se caractérise également par un goût de la connaissance, ce qui fait que lors des initiations, on présente des systèmes très compliqués que je serais bien incapable de vous présenter parce que je n'ai assisté à aucune de ces formations comme c'est secret. On ne peut que deviner un peu ce qui peut s'être dit dans ces diverses initiations. Alors les origines historiques, c'est assez complexe à chercher. Moi personnellement, j'ai un peu l'impression qu'il faut aller chercher, notamment, pas seulement, dans l'humanisme de la Renaissance, parce que l'humanisme de la Renaissance avait retrouvé les vieilles philosophies païennes, dans les vieux textes de Platon et autres philosophes grecs de l'Antiquité. Cet humanisme, pour les historiens, vous savez qu'il a été marginalisé par la réforme catholique du XVIe siècle qui a durci le dogme et les règles à respecter par les catholiques. Mais cette mentalité a perduré en s'éloignant du christianisme dans un certain nombre d'organismes qu'on appelle les ordres rosicruciens, les ordres de francs-maçons spiritualistes, des ordres ésotériques occultistes, des associations néo-païennes. Et au XIXe siècle, la société théosophique a définitivement, je pense, orienté cette pensée vers les religions orientales, de l'Inde et du Tibet notamment, tout en les transformant par rapport à l'original. On s'appuie sur les vieux textes, l'hermétisme de l'époque de la Grèce hellénistique, la vieille cabale juive, les écrits du mystique chrétien Jacob Boehme. On s'intéresse à la psychologie et notamment à Carl Gustav Jung, le fondateur de la psychologie analytique. Alors les croyances, même si on diffère pratiquement d'un individu à l'autre,
Il y a quand même une sorte de corpus de croyances communes qui repose sur la croyance en une tradition primordiale. La tradition primordiale, ça serait la religion originée de toute l'humanité, qui est maintenant perdue, mais qu'on peut retrouver en multipliant l'étude des diverses religions. Les diverses religions seraient des dérivées de la tradition primordiale, s'en seraient éloignées progressivement, l'auraient alternées, mais en les étudiant toutes, finalement, on se rapprocherait de cette fameuse tradition primordiale. C'est pourquoi on se réfère à des divinités gréco-romaines, celtiques, nordiques, hindoues. Une divinité particulièrement intéressante pour eux, c'est Gaïa, la terre-mère. On s'intéresse beaucoup aussi aux divinités des Amérindiens. Mais la divinité, c'est aussi autre chose pour eux. Ça n'est pas des personnalités comme Athéna, comme Hermès ou autre. C'est une sorte d'énergie diffuse dans l'univers. C'est une énergie qui est partout, qui est en nous, qui est dans le caillou, qui est dans le chat, qui est dans l'homme, qui est dans l'arbre, qui est partout et que l'on peut ressentir en ressentant les vibrations. Le mot vibration est très présent dans la littérature ésotérique. Et finalement, dans ce système de croyances, il n'y a pas de distinction nette entre la divinité, l'homme, l'animal, le monde minéral. C'est tout pareil. Et finalement, un début de l'initiation, c'est de permettre à l'individu de prendre conscience du fait que finalement il est un être divin. Alors on pratique beaucoup ce qu'on appelle le chamanisme, c'est-à-dire l'entrée en contact avec des entités spirituelles. Alors les entités spirituelles, ce sont les anges, c'est la grande loge blanche, ce sont les maîtres ascensionnés. Alors qu'est-ce que c'est que les maîtres ascensionnés? Ce sont des personnes comme vous et moi qui, au fil des différentes incarnations, ont fini par retrouver leur nature divine. Alors, il y en a toute une quantité, parmi lesquelles, pêle-mêle, Jésus, Marie, mais pas trop vierge, Bouddha, Athéna. Vous voyez, on va dans le bouddhisme, on va dans le paganisme grec, on va dans le christianisme, on va partout. Et pour communiquer avec ces entités, soit elles se révèlent, soit on cherche à les contacter en se mettant, avec une expression qu'on voit souvent dans la littérature, dans des états modifiés de conscience, et notamment, mais pas toujours, il ne faut pas systématiser, notamment en consommant certaines drogues hallucinogènes. Mais je répète, pas toujours. La philosophie de la nébuleuse inclut ce qu'on appelle le holisme, c'est-à-dire l'idée que tout ce qui existe n'est finalement qu'un élément d'un tout indivisible et unique, que tout est interdépendant des autres, et donc on aspire à un retour à l'unité, à vivre en harmonie avec l'ensemble, à acquérir une conscience planétaire. Alors cette tendance holiste amène notamment à contester la médecine, en ce sens que la médecine est accusée de ne traiter que l'organe malade, alors que quand on se sent mal, c'est que c'est l'ensemble de l'être humain, y compris dans sa dimension spirituelle, qui doit être soigné. Alors, en ce qui concerne la conception de l'être humain, elle est extrêmement compliquée, complexe. Je ne peux pas vous donner une synthèse générale. Je vais prendre le cas d'une personne qui se fait appeler Céleste Damania. Alors, dans ce qu'elle écrit, on voit que l'être humain, c'est un extraordinaire patchwork de moi supérieur, de la triade corps, âme, esprit, des trois corps d'incarnation sur Terre, des corps éthériques et spirituels, en plus du corps de chair et d'os. Vous voyez comment elle considère l'être humain comme extrêmement complexe. La mentalité nébuleusique, si je peux utiliser cette expression, insiste beaucoup aussi sur une conception cyclique de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, c'est une série de cycles qui se renouvellent périodiquement. Alors ça commence toujours de la même façon, par un âge d'or, où tout est magnifique, et au fur et à mesure, on passe à des âges successifs, durant lesquels tout se dégrade, jusqu'à l'âge du fer où vraiment tout va mal, et ensuite on recommence un nouveau cycle avec un nouvel âge d'or. Alors, d'après les auteurs de la nébuleuse, nous sommes actuellement dans l'âge du fer, c'est-à-dire une période de grave dégradation. Fort heureusement, l'âge du fer se termine et nous allons entrer dans un nouvel âge d'or. Nous quittons, pour prendre un langage astrologique, ce qu'on appelle l'âge des poissons, c'est-à-dire l'âge du christianisme, pour entrer dans un nouvel âge qui sera l'âge du Verseau. Et pour entrer dans l'âge du Verseau, alors selon les textes, il y a des possibilités diverses. Parfois, c'est une entrée brutale. Ça, c'est ce que croyaient ceux qui attendaient la fin du monde pour le 21 décembre 2012. On devait tout d'un coup entrer dans un nouveau monde. Mais la plupart du temps, ça se passe par un processus progressif auquel l'homme participe en modifiant sa conscience sous la conduite des maîtres pour participer à la création de ce nouvel âge. Et parmi les maîtres, alors, l'un des grands maîtres ascensionnés, c'est Maitreya. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Maitreya peut-être, j'en sais rien. Maitreya, c'est le nouveau Bouddha qui serait le Messie attendu par toutes les religions. Voilà en gros le système de croyance. Si j'ai voulu vous parler du système de croyance, c'est que je suis personnellement convaincu que en dehors d'escroquerie consciente, dont on parle dans la presse à propos de condamnation en justice, les comportements dans cette nébuleuse sont finalement guidés par cette façon de penser. Alors, les adeptes, qui sont-ils? D'abord, je ne pourrais pas vous donner les chiffres, c'est absolument impossible. Je ne crois pas que ça ait été recensé. Et ça serait d'autant plus inexact qu'une même personne va s'initier chez différents maîtres. Et donc, si on comptait les personnes qui fréquentent les maîtres, on aurait un chiffre trop gros, puisque finalement, une seule personne serait comptabilisée plusieurs fois. Alors les adeptes, je vais en distinguer deux catégories, les maîtres et les simples individus. Les maîtres, quand on voit la... Je travaille beaucoup sur les documents de communication, hein. C'est la raison pour laquelle je voulais présenter qui se présente. Ce sont des personnes qui se présentent toujours comme des personnalités extraordinaires. Très souvent, ils se donnent un nom d'emprunt, rarement leur nom d'état civil. Ils se présentent comme des personnalités extraordinaires, d'une part parce qu'elles ont été contactées par l'un ou l'autre des grands maîtres ascensionnés, ou alors elles les ont cherchées, elles les ont trouvées. Ces maîtres ascensionnés leur ont donné des révélations auxquelles, finalement, elles ont le devoir de les faire connaître à ceux qui veulent les connaître par le processus d'initiation. Ça, c'est ceux qui se présentent comme les porte-parole des maîtres spirituels, ou alors, mais cela n'exclut pas l'autre, ça peut être aussi des maîtres qui ont multiplié les initiations au Tibet, chez les Amérindiens, chez un psychologue jungien ou quantité d'autres maîtres, et qui se légitiment en disant que finalement elles en savent tellement qu'on ne peut que se référer à eux. Et donc on en sait tellement qu'on a pu se faire son propre système et on l'enseigne aux autres. Quant aux individus qui fréquentent ce genre de stage, ils sont invités à se renouveler, à retrouver leur nature divine par l'initiation. Alors il faut se purifier par une alimentation saine. Il y a une forte tendance au végétarisme, voire au végétalisme, dans les initiations telles qu'on nous les propose. On va très très loin avec le pranisme, qui consiste tout simplement à se purifier en ne consommant plus rien, en ne mangeant plus rien, mais en se nourrissant simplement de l'énergie omniprésente dans l'atmosphère, raison pour laquelle les pranistes, on les appelle aussi les respirianistes, parce qu'ils se nourrissent en respirant. Voilà. Il faut se libérer des souillures des vies antérieures, voire des souillures héritées de nos ancêtres. Ça, c'est un peu la mise en application de la croyance au karma. Vous savez, le karma, j'ai fait une bêtise, j'emporte la responsabilité. Plus tard, dans ma vie ou dans une vie future, j'en paierai le prix. Donc on se libère de ces souillures des vies antérieures. Il faut renoncer à son ego pour se fondre dans le grand tout. Un certain nombre d'initiations invitent également à se libérer de tous les tabous sexuels. Et alors je vois les programmes dans les documents de communication. Je me suis toujours demandé dans quelle mesure on passe aussi aux travaux pratiques. L'individu est invité à bien vivre dans le présent plutôt qu'espérer un paradis futur, hein, puisque finalement la croyance au paradis ne correspond pas bien à la nébuleuse, puisqu'on vit des incarnations successives et donc ça ne va pas en comparaison avec le paradis des chrétiens. L'individu est invité à développer des pouvoirs exceptionnels. Il y a en sous-jacence une sorte de croyance à la possibilité de devenir un surhomme ou une surfemme, parce que la nébuleuse est très axée sur l'aspect féminin des choses. Et puis alors l'individu est invité à participer à l'avènement de l'âge du Verseau, en récitant par exemple la grande invocation d'Alice Bailey, ou bien en participant à des chaînes de prière pour soulager les souffrants, ou bien comme ça s'est passé en 2010 à Haïti. Vous savez qu'Haïti avait été frappé par un terrible tremblement de terre qui a provoqué quelque chose comme 200 000 morts. Olivier Manitara et ses Esséniens ont créé à cette occasion un cercle d'études de la ronde des archanges pour apporter un soutien spirituel à distance aux malheureuses victimes de ce tremblement de terre. C'est en relation avec un aspect assez caractéristique de la mentalité qui est la croyance à la puissance de la pensée. Je pense très fort et je réussis donc à modifier le cours du monde. Mais bon, il vaut mieux être plusieurs à penser ensemble, comme ça on canalise toutes nos énergies vers le même but. Alors l'initiation, ça commence souvent par des conférences. On est invité à des conférences, on est invité à participer à des stages. Les stages peuvent être d'une durée variable, d'un week-end à une semaine souvent. Ça ne suffit pas, on participe à une série de stages et d'un stage à l'autre, on en apprend toujours plus. L'initiation, ça peut se faire aussi par des voyages initiatiques, parfois lointains. On vous invite à des voyages en Égypte, au Pérou, à Bali. Et là, c'est une formation intensive qui est en contact avec souvent les vieilles civilisations, vous savez, civilisation des Incas, civilisation égyptienne, la vieille civilisation hindouiste de Bali, en Indonésie. Et en passant, on n'est plus en contact avec les amis, la famille, on est complètement coupé de notre environnement normal et on est donc plus facilement accessible à accepter ce qu'on nous propose. Alors le programme des stages, pour autant que j'ai compris, il y a deux aspects particuliers. Il y a l'aspect apprendre des connaissances, mais je crois qu'il y a surtout, d'après les documents, participer à des expérimentations. Alors, d'un document à l'autre, on est invité à des pratiques chamaniques, à des transes, à des pratiques cultuelles, notamment, par exemple, au moment des solstices, à la visite de lieux chargés d'énergie, au reverse. Vous savez, le reverse, c'est une sorte d'initiation par laquelle on revit sa naissance pour en éliminer les souffrances de l'accouchement. On parle beaucoup de yoga, on parle beaucoup, beaucoup de méditation, mais alors il y a des yogas différents, il y a des méditations différentes. Didier Pachou vous en a donné un exemple tout à l'heure à propos de la méditation. Ou alors on participe à de la sexualité tantrique. On chante, on danse, on étudie des cartes du ciel, on fait de la numérologie, de la signification des nombres. Puis j'en passe, hein, parce que ça serait trop long. Alors évidemment, il y a des risques. J'en parlerai encore plus en conclusion tout à l'heure, mais bon, les risques, quels sont-ils? Il y a la dépréciation de la médecine, la dépréciation de la psychiatrie. C'est quand même assez dangereux de faire de la promotion des méthodes spirituelles pour guérir du cancer, pour guérir du sida. Par la spiritualité, on guérit du cancer et du sida. La purification dont je parlais tout à l'heure, ça consiste aussi à se purifier des vaccins et des médicaments. C'est polluant. Bon, en ce qui concerne le pranisme, je me pose quand même des questions, parce que ne pas se nourrir ad vitam aeternam, ça ne va pas. Ce qu'on sait, c'est que ça a au moins, vous en savez peut-être plus que moi là-dessus, ça a au moins provoqué 6 morts, des personnes qui sont allées jusqu'au bout. Maintenant, est-ce que je suis insuffisamment informé des autres faits? Mais bon, fatalement, le pranisme, ça ne peut pas marcher si on va jusqu'au bout. Au Canada récemment, en janvier 2016, une maîtresse qui s'appelait Gabrielle Fréchette, a été condamnée à 3 ans de prison et 2 de ses assistants à 2 ans suite à la mort d'une personne dans une hutte de sudation. Alors pour se purifier, on va dans une hutte, on chauffe, et puis finalement, ben, elle est morte. Et le médecin légiste qui a examiné le corps a conclu qu'elle avait été carrément cuite. Alors, les huttes de sudation, moi j'en vois beaucoup dans les documents de promotion de la nébuleuse. La plupart du temps, ça se passe plutôt au moins mal, semble-t-il. Mais là, pour le cas, il y a eu une dérive qui n'est pas sans rapport avec l'enseignement qui avait été donné au départ, puisque dans l'enseignement de Gabriel Fréchette, il avait été question de mourir à sa nature humaine, quelque chose comme ça, et là on allait jusqu'au bout. Les cadres institutionnels, ça va, je ne dépasse pas trop. Les cadres institutionnels, comme je vous le disais un peu en introduction, c'est très large. Bien souvent, c'est très informel. C'est la relation personnelle du maître au disciple sans qu'on ait besoin d'une structure particulière. Il y a quand même un bon nombre d'associations à but non lucratif, ne serait-ce que pour la gestion des aspects matériels et financiers. Il y a beaucoup de cybergroupes. Alors, cybergroupes, c'est un mot que j'ai inventé, je crois que
Il n'existe pas dans le dictionnaire. Des cybergroupes, ce sont des groupes qui se forment sur Facebook et dans lesquels on échange des impressions, des expériences. Ça n'est pas déclaré comme association non lucrative. Moi, je crée un cybergroupe quand vous voulez. Vous pouvez me rejoindre. On dialogue entre nous. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'institution. Il n'y a pas de finance. Il n'y a rien. Et puis alors, il existe au moins, je crois qu'il y en a plusieurs, mais au moins une entreprise de tourisme qui s'est spécialisée là-dedans. Ça s'appelle Oasis Voyage, qui a été fondée en 2007 par Eric Grange ou Grange, et qui multiplie les offres sur Internet de voyages en Égypte, en Amérique latine, chez les Incas, chez les Aztèques, au Tibet, pas trop au Tibet parce que les communistes chinois sont un peu réticents. Et là donc, moyennant finance, on participe vraiment à des initiations intensives. Alors j'avais dit en introduction qu'il y avait une dérive sectaire caractéristique. Bon, moi quand j'écris des articles sur tel ou tel maître ou tel groupe, j'essaie de ne pas me limiter aux documents de communication, mais j'essaie de voir un peu ailleurs, notamment sur le site du GMP évidemment, si on a quelque chose contre ces gens-là. Bien souvent, je ne vois rien. Probablement parce que c'est une forme de sectarisme un peu doux, en ce sens que on n'est pas membre à part entière d'une organisation unique, comme par exemple chez les Témoins de Jéhovah. Chez les Témoins de Jéhovah, c'est clair, on est dans une seule, et si on essaie d'aller dans une autre, on se dit rien. Bon, là non, on va chez les uns ou chez les autres. Mais bon, pourquoi je parle quand même de sectarisme? En m'appuyant sur la définition des sociologues de la secte, ce qu'on appelle une secte, c'est un ensemble de personnes qui partagent des conceptions communes, et la conception commune qui caractérise la secte par rapport à d'autres organisations, c'est la croyance que le monde dans lequel on vit est fondamentalement mauvais. Il est tellement mauvais qu'il n'y a plus rien à faire pour le sauver, et donc par conséquent, il faut s'en éloigner ou avoir un minimum de contact avec les personnes qui n'en sont pas. Ce qui amène d'ailleurs parfois les gens de la nébuleuse à se regrouper en communauté où on essaie de vivre en autarcie. Alors pourquoi quand même s'il n'y a pas cet aspect institutionnel, j'allais dire dictatorial de la secte, pourquoi est-ce que je parle quand même de dérive sectaire? C'est parce que finalement, quand on voit un peu les différents aspects, on se rend compte d'abord que nous vivons dans l'âge des poissons, c'est-à-dire dans un monde mauvais. Le monde est présenté comme globalement mauvais. Ça, c'est typiquement sectaire. On est invité à participer à la mise à mort de ce mauvais monde en modifiant sa propre conscience de manière à faciliter l'avènement de l'âge du Verseau. Ce qui fait que je classe cette catégorie, la nébuleuse, dans ce que les sociologues appellent la secte révolutionnaire. C'est la secte des gens qui agissent pour détruire le monde dans lequel on vit afin de créer un monde nouveau. Alors évidemment, rien à voir avec le gaz sarin dans les métros de Tokyo en 1995, c'est moins violent que ça. Rien à voir avec les voitures piégées d'Al-Qaïda, ça c'est clair aussi, mais sur le fond, la mentalité c'est la même, on doit agir pour mettre fin au présent monde mauvais. Le présent monde mauvais est caractérisé par le christianisme, comme je vous l'ai montré, je pense, on rejette le christianisme pour revenir à une mentalité païenne antérieure à l'époque du Christ. La nébuleuse dans ces documents est indifférente à la notion de citoyenneté. Je n'ai pratiquement rien vu sur la citoyenneté. Il n'y a pas d'incitation à adhérer à un parti politique, à adhérer à un syndicat. La citoyenneté, pour eux, ça se limite
à des méditations collectives pour changer le monde, à réciter la grande invocation. Il n'y a pas de patriotisme, il y a au contraire la conscience planétaire. Comme je l'ai dit, je ne vais pas trop y insister, méfiance envers la médecine moderne. Au monde actuel, on oppose la version idéalisée d'autres mondes d'ailleurs et du passé. On idéalise les Amérindiens, la civilisation des Amérindiens, les chamans. On idéalise les lamas tibétains. On idéalise la vieille civilisation de l'Inde. Et excusez-moi, mais Dieu sait comment on n'y comprend rien, parce que je vous ai dit à l'instant qu'il y avait dans la nébuleuse un aspect très féminin en ce qui concerne le public et les maîtres, j'allais dire les maîtresses, un aspect très féminin, mais quand on voit la condition de la femme en Inde, franchement, c'est pas exactement ça. Hein. Alors, essai d'explication. La nébuleuse résulte d'un passé, bien sûr, mais résulte beaucoup de la crise morale de l'Occident, déçue par le fait que les progrès techniques et scientifiques n'ont finalement pas amené le bonheur, qui préfère le bien-être sur Terre immédiat au paradis futur, et qui... est déçu de l'échec de l'utopie marxiste. Dans ce que j'ai pu lire sur la nébuleuse mystique ésotérique, un certain nombre de personnes sont un peu des anciens 68ards déçus, qui n'ont finalement pas réussi la révolution de mai 68, ou ailleurs en Allemagne ou aux États-Unis, où il y avait eu des mouvements semblables en 68, et qui finalement se sont réfugiés dans la spiritualité en cherchant un exutoire à leur déception. Alors la dangerosité, et je finirai par là, quelle est l'emprise de celui qui dit l'avenir avec les cartes du tarot de Marseille ou avec une carte du ciel sur la personne qui croit à ce qui lui est raconté. Il y a beaucoup de consultations privées dans les publications de la nébuleuse. Combien d'argent on y laisse ? Et souvent dans la presse, plutôt des petits articles que des grands textes, souvent dans la presse, on voit des cartomanciens, des voyants qui se font condamner pour abus de confiance, pour escroquerie. La dépréciation de la médecine, je ne vais pas y revenir, j'ai déjà dit. Mais enfin, en plus, non seulement on déprécie la médecine, mais on ajoute des thérapies alternatives. Ah, je pense qu'il en sera question dans la journée. Des thérapies alternatives, on présente ça comme de la médecine naturelle, comme des médecines parallèles, que scandaleusement les autorités refusent de reconnaître. Ces thérapies alternatives, ça peut être, je ne sais pas quoi, de l'acupuncture ou des choses comme ça, c'est pas très grave, mais ça peut être aussi des thérapies qui ont un effet placebo et qui n'ont pas d'effet réel sur la santé, mais au contraire qui découragent d'aller consulter le médecin. On invite l'adepte à transformer sa propre nature, à renoncer à son ego pour retrouver sa divinité. Bon, on y croit, mais finalement, dans quelle mesure est-ce que ça n'aboutit pas à des manipulations des manipulations parapsychologiques qui finalement aboutissent à ce que la personne se dépersonnalise elle-même. Quels sont les effets des pratiques parapsychologiques sur la santé mentale des personnes qui fréquentent ces stages? Quel est l'effet sur la vie familiale de celui auquel un maître a révélé que s'il se sentait mal, c'est parce que dans sa petite enfance, un parent lui a fait subir des abus sexuels, comment est-ce que cette personne voit les personnes de son entourage ne sachant pas quel est celui qui lui aurait fait subir des abus sexuels? Il va les regarder de travers, c'est sûr. Et puis alors finalement, mais au pire, hein, fort heureusement pas toujours, on peut arriver jusqu'à la mort. J'ai cité cette personne cuite dans la lutte de sudation. Là peut-être est-ce qu'il y a eu une mauvaise manipulation contre guillemets d'échauffement. Mais alors, les personnes qui sont mortes du pranisme, là c'est clair, c'est rien d'autre que la mise en œuvre, la mise en pratique d'une croyance. Je crois au pranisme, je ne me nourris plus, je meurs de faim. Voilà, je ne vais pas abuser. Je vous remercie de votre